Bienvenue dans Un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Je suis Pina Wood et je serai votre voix vaisseau pour cette traversée. Emmaüs, c'est 70 ans de lutte contre la précarité. Et aujourd'hui alors, comment, où et qui? Vous êtes prêts? Allez hop, en avant.
Et je dis Emmaüs, c'est de la récupération d'hommes avec de la récupération de choses. Et une fabrique d'explosifs, de la conscience.
Nous partageons ce que l'on a avec ceux qui ont moins que nous.
Bien sûr, la confiance est un concept qui se construit, qui s'affirme tous les jours, se réaffirme.
Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est la force aussi de notre mouvement.
Chacun apporte, avec sa singularité, quelque chose à la construction d'un monde meilleur.
Les voix que vous venez d'entendre sont celles du nouvel épisode. Je vous propose de continuer notre exploration et d'approfondir la découverte. Si les précarités se développent et se transforment, à Emmaüs, il s'agit de ne jamais baisser les bras, et surtout de s'adapter, de continuer à trouver de nouveaux modes d'action pour que personne ne soit laissé de côté et toujours dans la dignité humaine. Ok, le vaisseau est prêt, destination projet innovant, cap sur les solidarités. Ah non, vous n'avez pas besoin de mettre votre ceinture? C'est un voyage doux et plein d'espoir. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment soutenir des familles grâce à des avances financières. Comment offrir une sécurité aux sans-abri et redonner confiance aux détenus grâce au travail de la terre. Ça commence avec Geneviève Cathy Poulain, présidente du SOS Famille Emmaüs de Bourg-en-Bresse depuis maintenant 13 ans.
Le premier SOS Famille Emmaüs a été créé en 1967 à Rouen par Anne-Marie Poinsignon qui voulait prévenir les risques d'expulsion locative. Et ensuite, il a fallu attendre 1975 pour que la formule s'étende à toute la France. Nous ne sommes que des bénévoles. Et donc, le principe des SOS Famille Emmaüs, c'est de faire des avances à des familles en difficulté pour les aider. Au départ, c'était à régulariser leurs impayés de loyer, rembourser leurs dettes. Ça, c'était l'époque de l'abbé Pierre. Mais depuis, les temps ont changé. La situation des familles a beaucoup évolué. Des familles de 1975, il ne doit pas rester grand-chose. Maintenant, ce sont surtout des familles monoparentales, des femmes seules ayant des enfants à charge, des personnes seules, et depuis quelques temps, depuis un an ou deux, nous avons même des personnes retraitées.
L'année 2020 a rebattu les cartes. On va pas se mentir, ce confinement, cette pandémie, a amené une crise sans précédent, loin d'être anecdotique, et qui va nous marquer pour plusieurs années. Mais les SOS Famille Emmaüs ont continué de se battre. Parce que c'est ça, la mentalité Emmaüs, ne rien lâcher.
Le lien social, c'est très important. Donc nous avons appelé toutes les personnes qui avaient des dossiers en cours de remboursement. C'était déjà pour rompre l'isolement, prendre de leurs nouvelles et voir un petit peu comment ils supportaient le confinement. Nous les avons appelés tous les 15 jours. Et nous nous sommes rendus compte, enfin moi je me suis rendu compte avec mon accueillante, qu'au fil des semaines, le discours avait changé. Au départ, bon, ça allait. Et après, les gens ont commencé à se poser des questions. Combien de temps ça va durer? Comment on va faire pour payer nos factures, leur loyer, leur facture d'eau? Parce que ce qui s'est passé, c'est que les enfants n'allaient plus à l'école. Les parents se sont retrouvés avec les enfants à la maison. Plus de cantine scolaire, plus de frais d'eau, d'électricité. La ville de Bourg a bien mis en place des aides pour compenser les cantines scolaires. Mais c'était très peu. Je crois que c'était de l'ordre de 5,70 € par enfant pour 4 jours par semaine. Donc ça n'a pas vraiment compensé. À ce moment-là, nous avons déjà développé l'écoute. Nous ne pouvions pas recevoir les personnes, mais nous avons quand même gardé le lien autant que possible. Certaines personnes se faisaient du souci parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir nous rembourser. Mais nous, ça s'est quand même très bien passé. Pour eux, c'était très important de continuer leur remboursement vis-à-vis de SOS Famille Emmaüs.
Les SOS Famille Emmaüs ont donc proposé de geler les remboursements pour que les bénéficiaires puissent vivre dans la dignité. D'ailleurs, quand on explique la précarité, on parle souvent d'un enchaînement de conséquences dont on n'a plus le contrôle. Ça commence par un problème, on n'a pas la clé, on est seul et on a du mal à s'en sortir. Et puis quand un autre problème vient s'ajouter, il paraît alors impossible de mener la situation de front tant les difficultés se succèdent. Pour Geneviève, le mal-endettement en est un réel exemple.
Il y a une différence entre le mal-endettement est le surendettement. Le malendettement, surtout nous, pour les familles que nous recevons, ça correspond à des situations financières instables, puisque les familles ont des revenus qui fluctuent. Nous avons des femmes seules ayant des enfants à charge qui reçoivent les pensions alimentaires avec du retard ou qui ne les reçoivent pas. Donc ça déstabilise les ressources du mois. Donc là, vous vous trouvez avec une situation de malendettement. Ce sont des familles qui ont des difficultés à faire face à leurs dettes. Tandis que le surendettement, c'est un endettement excessif avec un taux d'endettement qui est élevé, qui est à plus de 50% par exemple. Et dans ce cas-là, eh bien, les revenus ne suffisent plus à supporter toutes les dépenses.
Les dettes s'enchaînent et il devient vraiment compliqué de se sortir de cette situation. Mais alors comment on trouve de l'aide ? On va vous répéter que vous ne savez pas gérer votre budget, alors vous avez honte et on vous laisse de l'autre côté. SOS Famille a choisi de faire confiance. C'est le sentiment le plus fort pour se reconstruire. Et ça se traduit, non pas par des dons, mais des avances financières qui viennent de l'activité des compagnes, des compagnons et des salariés en insertion dans d'autres structures Emmaüs. En fait, c'est une véritable chaîne des solidarités incassable, puisqu'elle repose sur l'humain. Toutes ces innovations fusent. Elles naissent d'un besoin et d'une volonté d'éradiquer les précarités dès qu'elles surviennent. Et parce que nous sommes passés aux lignes de train grande vitesse, elles traversent même les frontières. C'est le cas du projet des casiers solidaires, porté par Emmaüs Alternative à Montreuil. Je vous emmène rencontrer Marie-Hélène Lenedic, directrice du pôle action sociale et hébergement à Emmaüs Alternative.
À l'origine, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu sur Facebook, puisque c'est un dispositif qui existe au Portugal. Et la directrice générale de l'époque, quand elle a vu ça, elle a dit ça pourrait vraiment correspondre à ce qu'on pourrait développer nous en France. Et elle a pris contact avec la personne qui a créé ce dispositif à Lisbonne. Et on est parti faire un voyage d'études en juillet 2017, à la fois pour voir de visu comment fonctionnait ce dispositif, et puis surtout voir si les modalités d'accompagnement qui étaient liées correspondaient à notre façon de travailler et à nos valeurs. Donc on est parti pendant 4 jours et on est revenu gonflé à bloc, étant sûr que c'était un dispositif innovant, important pour le public qui vivait à la rue. C'est comme ça qu'on a commencé à démarcher depuis septembre 2017, pour en arriver là aujourd'hui, avoir déjà 24 casiers à Montreuil. Il y en a 12 qui vont être installés d'une semaine à l'autre à Clermont, 12 à Beaubourg. Et puis là, aujourd'hui, on commence un plan stratégique de développement national.
Au détour d'une rue de Montreuil, vous pouvez apercevoir ces immenses casiers d'un bleu pétrole. Ils ne sont pas cachés dans un petit coin, à l'abri des regards, car leur réalité est bien présente. Ils sont 12 et leurs numéros sont inscrits en grand. Dessus, il y a même une carte de l'Europe dessinée.
La particularité de ces casiers, c'est qu'ils sont implantés au cœur des villes. C'est du mobilier urbain pour sans domicile fixe, pas au sens négatif comme on pourrait l'entendre, mais c'est pour leur permettre d'être insérés comme chacun d'entre nous. Et donc, c'est pas caché. C'est là, par exemple, à Montreuil, c'est au centre-ville. Les deux emplacements centre-ville, à Clermont-Ferrand, ça sera pareil. Et du coup, c'est du mobilier urbain assez sympathique. Alors, à Montreuil, ils sont bleus. À Clermont, ils sont de mémoire vert. Et les personnes reçoivent une clé. Et à la différence des autres dispositifs de mise à l'abri des effets personnels, ils peuvent aller accéder à leur casier 24-24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'autre dispositif pour les sans-domicile fixe qui permet ça, pour qu'ils puissent à la fois sécuriser leurs effets personnels et y avoir accès quand ils souhaitent. Donc quand les gens, nous, on les accueille, après avoir fait la première évaluation, il y a un temps qui est très fort pour tous, c'est la remise de la clé. La plupart, ça fait des mois, des années qu'ils n'ont pas eu de clé personnelle et surtout qu'on ne leur a pas confié quelque chose. Et la première chose qu'ils disent systématiquement, c'est oh, « vous me faites confiance, vous me confiez une clé ». Après, ils peuvent y mettre leurs effets personnels. Ceux qui vivent à la rue, ils mettent à l'abri leurs papiers, leurs vêtements, des fois un peu de nourriture. Parce que ça, c'est des choses lourdes à transporter. Et par exemple, on en a quelques-uns qui vivent là dans un parking. Ce que j'ai vu, c'est que le matin, ils rangent leurs affaires, le duvet, l'oreiller, et le mettent là, par exemple. Les personnes qui vivent à la rue, soit ils restent avec leurs affaires toute la journée, Et ça veut dire qu'ils sont dans des issues de secours, dans des parkings, ce qui peut être dangereux, etc. Soit ils laissent leurs affaires, et généralement, quand ils reviennent, soit elles ont été volées, soit elles ont été jetées par les agents de la propreté, puisque c'est leur consigne. Donc le fait de pouvoir laisser une grande partie de leurs effets personnels, ça, déjà, il n'y a pas de vol, et ils retrouvent de la mobilité, parce qu'ils n'ont pas ces choses lourdes à porter, qui en plus les stigmatisent. Parce que quelqu'un qui se promène comme ça, ses effets, on sait que c'est quelqu'un qui est à la rue.
Nous discutons avec un jeune homme, Nicolas, un bénéficiaire de ce dispositif qui a souhaité raconter son expérience.
J'ai 29 ans, je viens de finir un contrat de CDD. J'étais dans la rue et on m'a donné l'adresse d'Emmaüs. Et je suis allé là-bas, j'ai expliqué mon problème. Et j'avais pas là où mettre mes affaires. Et du coup, l'assistante qui m'a reçu, elle m'a dit qu'ils ont des dispositifs comme des casiers. J'ai pu mettre mes affaires à l'intérieur, et tout en les sécurisant. Ils nous accompagnent pour la recherche du travail, pour les démarches administratives, les impôts, la CAF, tout ça.
On ne demande pas aux gens de venir vers nous. On va vers eux. On va vers eux, vers l'endroit où ils dorment, vers l'endroit où ils ont envie qu'on les rencontre. Et normalement, en période hivernale, alors là, on est bloqué, en fait, on les reçoit dans des cafés. On offre un café, un thé, donc il y a un petit instant de convivialité, ils se réchauffent, et la référente sociale fait le travail à faire avec eux. On fait quasiment tout le travail dans la rue ou dans un café, les démarches, etc., pour pas qu'ils aient besoin d'aller vers une structure ou vers un accueil de jour. Ça, c'est essentiel, parce qu'il n'y a quasiment jamais aucun dispositif qui fonctionne comme ça. Nous, la référente sociale, si elle, ça fait plusieurs jours qu'elle ne les voit pas, elle va marauder dans Montreuil pour les repérer, ou elle va demander aux autres où ils sont, etc. Et comme ça, du coup, nous, les premiers casiers fonctionnent depuis un peu plus de 2 ans, puisqu'on en a 24 sur Montreuil, et en fait, on se rend compte que des personnes à la rue, des fois depuis 20 ans, qui n'avaient fait plus aucune démarche depuis des années, bah, le fait d'avoir un accompagnement de grande proximité, ils ont leur CNI, ils ont les droits santé d'ouvert, ils ont accédé à leurs ressources. Et puis après, il y en a, on peut aller un peu plus loin, on peut aller vers l'insertion pro. Et puis notre objectif, pour tous, c'est qu'ils sortent de la rue.
Et ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, c'est encore une fois la confiance à nouveau rétablie. Je vous invite donc à prendre le large avec moi, direction le Nord. Près de Soissons, dans les Hauts-de-France, une ferme biologique accueille une vingtaine de personnes qui veulent se reconstruire après une peine de prison. J'espère que vous êtes bien équipés, car c'est une escale au plus près de la terre qui vous attend, mais aussi au plus près de ses hommes. Ça commence avec Olivier. Ce qui lui tient à cœur chaque jour, c'est de retrouver ses bêtes.
Je suis arrivé ici en placement en 2017. Puis après, il y a un encadrant que bon, il est parti, puis il fait un encadrant élevage, donc j'ai postulé. Donc ça fait 2 ans que je suis encadrant. Encadrant élevage, et je fais tout ce qui est travail du sol. Parce que je suis ancien agriculteur éleveur. Donc bon, tracteur, je suis né sur tracteur. Je connais tout ce qui est culture. J'ai 54 ans, je connais. J'ai du vécu déjà.
Je m'appelle Brice. Et mon rôle ici, je m'occupe de l'élevage chevrier. J'ai pour 1 an ici. Je suis arrivé ici à l'été, puis je repars à l'été. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis venu faire ma peine ici, terminer ma peine ici, puis peut-être je vais rentrer au mois de novembre. Ça. Ouais, ici ils font la traite. Les chèvres, on les met là-bas dans le parc. Là. Ils montent ici. Ils viennent ici et puis ils s'alignent comme ça. Puis la nourriture, on met dedans. Le granulé, on met dedans et puis ils viennent manger direct dedans. Je leur donne des betteraves fourragères tous les matins. J'ai appris avec Olivier, mon formateur, et puis c'est cette machine-là qu'on allume. Tu allumes et tu branches sur les chèvres comme ça, et puis il aspire le lait et ça remplit des cuves comme ça. Et dès que c'est plein les deux, là, quand c'est fini, ben j'emmène les deux cuves à la fromagerie. Il faut se lever de bonne heure et puis il faut que ça soit propre. Pas un truc qui tombe dedans parce que. Si tu loupes ici, le fromage est loupé là-bas. Ouais.
Ici, à l'élevage, déjà, il faut aimer les bêtes, déjà. Si tu viens faire ça pour. Rien que pour t'occuper, c'est pas la peine. Il faut l'amour des bêtes ici. Que ça soit ici, que ce soit là-haut aux poules. Il faut que les bêtes y soient, ça soit sain. Là, tu vois, regarde. C'est nickel, c'est propre. J'aime bien. Si je suis là, j'observe beaucoup de choses. Moi, je suis là. Je suis très observateur. Mais moi, si le boulot les fait comme il faut, je ne dis jamais rien. Parce que le problème, les chefs, c'est 7 jours sur 7. Hein. Parce qu'ici, les gars, ils sont à 20 heures semaine. Hein. Donc, 20 heures semaine, moi, chaque semaine, chaque mercredi, au gars, je lui impose une matinée de repos. Et un samedi ou dimanche sur deux. Parce que moi, ici, j'ai deux gars ici à l'élevage. Et j'ai un gars aux poules, ça fait 3 personnes. Après, il s'arrange, les côtes en repos ici, il fait le boulot, il s'arrange. Mais bon, là, en ce moment-ci, on n'a pas tellement de résidents, donc c'est dur à gérer en ce moment-ci. Là, ce matin, j'en ai un nouveau, Mehdi, là, il est arrivé la semaine dernière, ça y est, je le mets aux poules.
Vas-y.
Mardi dernier, j'ai fait une journée ici, ça m'a beaucoup plu, puis j'ai recommencé hier. Moi, j'aime bien les animaux. Moi, je suis parisien de base, donc j'ai pas affaire à tout ça, c'est tout nouveau pour moi, donc ça se passe super, c'est très bien. C'est mieux que la prison. Tous les matins, on les nourrit, on change la paille. Une fois par semaine, on nettoie tout. Comme hier, on a tout nettoyé. On ramasse les œufs à 11h. Et puis voilà. On ouvre leur petite trappe là-bas qu'on ferme le soir. Elles sont en plein air, en fait, ces poules-là. Pas le soir, hein, mais la journée, ouais, elles peuvent circuler en plein air. Bah, c'est sûr que c'est un privilège pour elles par rapport à certaines poules qui sont en batterie, tout ça. Donc c'est pas terrible.
Je voulais vous présenter Simon Hiverneau, responsable maraîcher à la ferme de Moyenbris. Il nous explique la naissance de ce projet.
Le tout début de l'histoire de la ferme, c'est Jacques et Geneviève Pluvinage, qui sont un couple. Jacques, il est retraité de l'INRA. Il a 60 ans et il dit « Moi, je suis encore en pleine forme, j'ai encore envie de travailler. » Et il rachète cette ferme en ruine, dans les années 90, en 95, je pense. Et puis il vit et il cultive la terre ici, en accueillant un peu les paumés du coin, quoi. On va dire, des gens de passage, des SDF, des personnes qui veulent se poser pendant 1, 2 jours, 3 mois, avec un peu l'idée, si tu m'aides à cultiver les légumes, je te nourris et je te loge. Et en même temps que ça, Jacques, il est visiteur de prison. Et donc, il visite des gars en détention avec l'Association nationale des visiteurs de prison. Et un beau jour, il reçoit une lettre, et c'est ça le vrai début de Moyenbris tel qu'on le connaît aujourd'hui, une lettre d'un des détenus qui va visiter en prison et qui lui dit « Jacques, c'est génial, dans 3 mois la sortie, tout va bien aller pour moi, enfin la liberté, tout ça, voilà ». Donc il va voir Geneviève et puis il dit à Geneviève « Tiens, il y a Maurice qui m'a écrit, il est trop content, il va sortir dans 3 mois, tout va bien aller pour lui. » Geneviève lit le courrier à son tour et puis le soir, en fait, elle revient voir Jacques et elle dit « Mais Jacques, t'as rien compris, quoi. En fait, là, Maurice, il est complètement perdu, il a plus d'amis, plus de famille, il sait pas où aller. Dans 3 mois, la liberté qu'on lui offre, c'est pas une vraie liberté, quoi. Hein, en fait, c'est la liberté de refaire des conneries ou de vivre à la rue. Et donc, il fallait lire entre les lignes et tout ça. Et s'ensuit une discussion entre deux, en se disant, est-ce qu'on l'accueille ou pas ici à Moyenbris, dans notre ferme. Et puis, il décide de l'accueillir. Et à partir de ce moment-là, il y a un juge d'application des peines de l'an qui entend parler d'un petit papy à Coussin-Château qui accueille des sortants de prison, Et puis c'est là où se formalise un peu le partenariat avec l'administration pénitentiaire, le placement extérieur, le chantier d'insertion ensuite, etc. etc.
Il me restait 15 mois à faire en détention. Je demande un aménagement de peine pour rentrer dans la Somme chez moi. Le juge, il me dit non. Ça faisait un an, Un an, c'est rien. Puis bon, après, c'est la CPIP, je ne sais plus comment c'est son nom, elle me dit « Monsieur Christophe, postulez pour la ferme de Moyenbris. Envoyez un courrier. » Je lui dis « C'est quoi cette ferme de Moyenbris, là ?» Elle m'a donné des renseignements. J'avais entendu parler, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Je dis « Je repartirai chez moi dans la Somme. » Elle me dit « Postulez pour Moyenbris. » Elle me dit « Envoyez un courrier à Moyenbris. » Bon, j'envoie un courrier. 2-3 jours après, la semaine d'après, elle me dit « Oh, votre courrier est validé, ils vont venir, ils vont envoyer une personne pour vous rencontrer en détention. » Puis bon, on a discuté, puis après il m'a rendu 2 réponses 3-4 jours après que c'était bon, il m'a accepté. Je suis en permission au mois de septembre. Quand je suis venu ici, je ne voulais plus partir en prison. J'étais trop bien ici. C'est mon univers. Il y avait beaucoup de gars qui étaient en détention avec moi. Donc ça a été dur. Hein. Mais bon, j'arrive à faire mon chemin. Et aujourd'hui, bon, je ne suis pas parfait, mais bon, ça fait le mieux possible. Puis je suis fier d'accomplir cette tâche, montrer mon savoir-faire aux gars.
Là, dans la pâture, en marchant, il y avait des pommes de terre. On a tout ramassé à la main. Ma chambre, elle est là, à droite, là. Et ouais, nos chambres, elles sont là. On est 8. Ouais, en tout cas, 4 ici et 4 de l'autre côté.
Quand on ne connaît pas ici, même moi, la première fois, ou même mes premières semaines de travail, je vais bosser avec des détenus et tout ça. Enfin, on s'en fait toute une histoire, quoi. Parce qu'il y a une sorte de mythe en France de l'univers carcéral. Enfin, on imagine des trucs, mais parce que c'est fermé, c'est caché, on en sait peu de choses. Voilà. Et puis finalement, on rencontre pas des détenus, mais on rencontre Claude, on rencontre Jean-Pierre, on rencontre Dominique, on rencontre finalement des bonhommes comme vous et moi.
Ce qui semblait impossible, trop compliqué, pas adapté, utopique, s'est réalisé dans cette région du nord de la France. Parce qu'une fois encore, des êtres humains ont cru en l'humain. Et pourtant, on continue d'appeler ça une utopie, comme si ça ne tenait pas compte de la réalité. Sandrine Roudot est l'autrice de l'utopie mode d'emploi. On décolle, on part à sa rencontre pour mieux comprendre et aussi pour avoir quelques clés de lecture.
Une utopie comme Emmaüs, elle se crée au départ et elle avance, elle se déploie avec une double énergie. La première qui est une énergie de l'indignation, de la colère, qui était l'énergie initiale de l'abbé Pierre quand il a lancé son grand appel, quoi. Et en fait, c'est une forme d'extrême lucidité sur ce qui est intolérable. Pour lui, ce qui était évident, c'est que la précarité, c'était pas une option. Mais c'est aussi une extrême lucidité sur ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire qu'un être humain n'a pas à se résigner, qu'il n'a pas à regarder ailleurs pendant que des gens souffrent. Et en même temps, cette énergie, elle est contrebalancée par quelque chose d'extrêmement positif, c'est une foi en l'humanité. Emmaüs, c'est dire « on vaut mieux que ça et on peut mieux que ça ». Donc en fait, c'est une énergie de solidarité et d'amour au final. Et c'est ça qui en fait quelque chose dans lequel on a envie de travailler, on a envie de se donner. Et c'est aussi ce qui fait que c'est une action qui fait du bien. Donc il ne faut pas rester simplement sur la colère, c'est vraiment aussi une énergie d'amour. L'utopie, c'est décider du monde dans lequel tu veux vivre. Et ça, c'est une énergie énorme, parce que même si le monde il est peuplé de cyniques, de fatalistes, et même si tu es le seul à le penser, tu vas quand même tenter quelque chose. Parce que tu es mu par la conviction que ça peut changer, parce que ça doit changer. Donc en fait, tu regardes que ça, tu regardes que demain, que ce que tu veux voir advenir, ce monde sans précarité. Tu regardes pas hier tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, et tu regardes même pas aujourd'hui tous tes obstacles, en fait. Tu regardes demain ce monde que tu veux voir advenir et tu t'en charges. Tu n'attends pas que d'autres le fassent à ta place. Et pour t'en charger, il faut que tu trouves tes alliés. Et c'est ça aussi, Emmaüs, c'est une nouvelle famille. À la fois avec les bénévoles, avec les fondateurs, avec les gens qui sont dans la précarité, avec ceux qui montent des projets. Tu trouves tes alliés, c'est à géométrie variable. Tu y apportes tes compétences spécifiques en fonction du temps que tu as, en fonction de l'énergie que tu as à ce moment-là. Parce qu'une utopie, si elle est radicale et qu'elle est déterminée, en même temps, elle est bienveillante avec ceux et celles qui tentent de la faire advenir. Si on doute de l'importance et de la force des utopies, il suffit de penser, par exemple, à la sécurité sociale. Il y a une époque où c'était mais totalement utopique de se dire qu'on pourrait tous être protégés pour notre santé. C'est évident que les gens qui ont imaginé ça, c'était de pures utopistes. Et d'ailleurs, ces gens-là, c'était les résistants pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, en même temps qu'ils faisaient le maquis, imaginaient dans quelle société ils aimeraient vivre après. C'était leur programme des jours heureux et ils avaient imaginé la sécurité sociale. Voilà, c'est la même chose sur les congés payés, c'est la même chose sur tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit quelque chose est difficile, on devrait se protéger, on devrait... Et donc, on va imaginer quelque chose. Et puis, on se bat pour le faire advenir et puis, il y a un jour, ça advient. Et ça n'est plus une utopie, et on oublie qu'à un moment donné, c'était une utopie, et qu'il y a des gens qui s'en sont chargés, et qui l'ont fait entrer dans la réalité.
J'ai l'impression qu'on a été un peu plus loin que prévu. Mais bon, quand on explore, on trouve du sens. Et moi, ça me conforte dans l'idée que rien n'est figé, et que tout est possible. Si à chaque imprévu, chaque nouveauté, chaque changement, nous sommes capables d'y remédier, Alors, le grand monde qu'on va construire ensemble n'a jamais été aussi attrayant. J'adore l'histoire du carreau cassé, mais je ne vais pas vous la raconter. C'est à une compagne ou un compagnon de vous dévoiler ce mystère. En parlant de mystère, nous découvrirons dans le dernier épisode comment ce qui se joue aujourd'hui a déjà été pensé par Emmaüs. Si vous avez apprécié ce podcast et que la connexion à de nouvelles galaxies vous interpelle, n'hésitez pas à nous suivre et à nous partager.